Europe 1, le 22-22-30,
Julien Pierce.
Bonsoir et bienvenue dans le journal de la nuit. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h30. Il est 22h, vous êtes sur Europe 1.
Si notre société s'est modernisée, ouverte, si nos vies sont plus libres, c'est aussi à son courage et à son audace que nous le devons. Ce qu'il a accompli nous accompagne toujours.
L'hommage d'Emmanuel Macron à Valéry Giscard d'Estaing, un président dont le septennat a marqué nos vies et nos pays, a déclaré le chef de l'État qui a décrété un jour de deuil national mercredi prochain. C'est là que tout a commencé. Chamalières, une petite ville du Puy-de-Dôme dont VGE fut le maire avant d'entrer à l'Élysée. Les habitants lui ont rendu hommage aujourd'hui. Giscard l'Auvergnat, Giscard l'Européen, une idée chevillée au corps qui l'a fait avancer en relançant le couple franco-allemand. Ce n'est plus qu'une affaire de semaines. Jean Castex a présenté la stratégie vaccinale de la France, 3 phases et un vaccin gratuit pour tous. Nouvelle journée électrique au procès des écoutes avec une passe d'armes entre l'un des prévenus, Gilbert Azibert, et le parquet financier. Le temps de demain, très perturbé avec de fortes chutes de neige, notamment dans les Hautes-Alpes où une vigilance orange est en cours. Par ailleurs, de nombreuses régions seront sous la pluie, nous dira Anissa Haddadi à la fin de ce journal. La Bourse de Paris, elle a clôturé ce soir en très léger recul, -0,15% à 5574 points. Tous les détails à venir avec Claire Lemaître de Boursier.com. L'interview écho dans 20 minutes. Emmanuel Dutheil reçoit ce soir Charles-Édouard Bouet, auteur d'un livre qui fait beaucoup parler dans les affaires économiques, l'ère des nouveaux titans chez Grasset. Enfin, on découvrira ensemble les unes de vos journaux de demain.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Valéry Giscard d'Estaing fut pendant longtemps le plus jeune président de la République, 48 ans seulement à son élection en 1974, record battu depuis par Emmanuel Macron. Vous avez pu le vivre en direct sur Europe 1. Le chef de l'État a rendu ce soir un hommage solennel à son prédécesseur Valéry Giscard d'Estaing, décédé hier à l'âge de 94 ans.
J'appartiens à une génération qui est née sous sa présidence et qui, sans doute, n'a pas toujours mesuré à quel point Valéry Giscard d'Estaing avait, pour elle, changé la France. Pourtant, la défense des femmes et leur promotion à de hautes responsabilités, le divorce par consentement mutuel, la majorité civile à 18 ans, l'interruption volontaire de grossesse, l'intégration de ceux des nôtres qui sont en situation de handicap. Si notre société s'est modernisée, ouverte, si nos vies sont plus libres, c'est aussi à son courage et à son audace que nous le devons. Ce qu'il a accompli nous accompagne toujours. Une vie, quelques jours et puis plus rien, écrivait Maupassant. Valéry Giscard d'Estaing, pour une fois, fera mentir son écrivain de cœur, car son legs de modernité demeurera.
Le président qui a décrété un jour de deuil national le mercredi 9 décembre. Les obsèques de Valéry Giscard d'Estaing auront lieu samedi à Autun, dans le Loir-et-Cher. L'ancien chef de l'État sera enterré dans la plus stricte intimité familiale aux côtés de sa fille Jacinthe, décédée il y a près de 3 ans d'une longue maladie. La classe politique dans son ensemble rend hommage à un homme qui a fait bouger la société. On vient de l'entendre, le président Macron a rappelé quelques-uns des acquis obtenus sous le septennat de Valéry Giscard d'Estaing. La dépénalisation de l'avortement, le divorce par consentement mutuel ou encore le passage de la majorité de 21 à 18 ans. Des réformes qui restent d'une profonde actualité, salue Jean Castex. Avec sa disparition, la France perd l'un de ses plus grands serviteurs, ajoute le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti. Secrétaire d'État à 33 ans, ministre des Finances à 36, Valéry Giscard d'Estaing fut propulsé très jeune dans les plus hautes sphères, sans jamais oublier son ancrage local. Il était viscéralement attaché à l'Auvergne et à son fief de Chamalières, dont il fut le maire pendant 7 ans. Une mairie que les Français avaient découvert le 8 avril 1974.
Je m'adresse à vous, ici, dans cette mairie de la province d'Auvergne, pour vous dire que je suis candidat à la présidence de la République française.
Et c'est dans cette même mairie qu'a été installé cet après-midi un registre de condoléances, Jean-Luc Boujon.
Oui, qui est aujourd'hui dirigé par le fils de l'ancien président, Louis Giscard d'Estaing. Le registre a donc été mis à disposition des habitants en début d'après-midi avec, tout à côté, une photo de l'ancien président. Sylvain n'était pas né lorsque VGE était au pouvoir. Pourtant, il a tenu à venir griffonner quelques mots d'hommage.
J'ai écrit que c'était la disparition d'un grand homme qui a œuvré pour l'Auvergne et pour l'Europe. Voilà. Nous, du côté de l'Auvergne, qui a construit la Grande Halle et puis Vulcania, qui sont quand même des grosses œuvres, c'est effectivement une fierté pour nous.
Voilà, ici, les gens lui sont reconnaissants d'avoir contribué à placer l'Auvergne sur une carte de France, d'Europe et même du monde. Il a aussi beaucoup œuvré pour relier Clermont-Ferrand à Lyon, Paris, au sud de la France, avec la construction de plusieurs autoroutes lorsqu'il était président du Conseil régional. Donc ici, on admire le grand bâtisseur, même si certains émettent quelques réserves.
C'est un personnage ambivalent, quelqu'un qui pouvait vous montrer une familiarité sympathique et puis de temps en temps, il restait sur son grand assoir, il était dans son monde.
Compte tenu de son éducation et de sa stature, pouvait paraître aux gens distant et il souffrait de ne pas pouvoir avoir ce contact naturel vis-à-vis des gens.
Voilà, c'est pour cela qu'il s'éloignera de Chamalières à la fin des années 2000, battu aux élections régionales, puis aux municipales à Clermont-Ferrand, et il finira par trouver les Auvergnats ingrats vis-à-vis de lui et de ses réalisations, un peu comme les Français quelques années auparavant.
Jean-Luc Boujon à Chamalières pour Europe 1. Il fut un giscardien de la première heure. Jean-Pierre Raffarin a fait ses premiers pas en politique lors de la campagne présidentielle de 1974. L'ancien Premier ministre est revenu ce soir sur cette période dans le 18-20 d'Europe 1.
C'était d'abord une forme d'enthousiasme. Au fond, il faut bien se souvenir que la période du gaullisme se faisait quelque peu automnale. Le général de Gaulle avait vieilli, le président Pompidou était malade. Et donc, il y avait un besoin de printemps. Et Giscard, c'était ce printemps. Nous étions la génération du baby-boom. Nous étions la génération qui, au fond, était la plus concernée par le besoin de renouveau. Et donc, c'était cette forme d'enthousiasme.
Jean-Pierre Raffarin qui répondait ce soir aux questions de Julien Bugier. Deux mots reviennent en boucle depuis la disparition de Valéry Giscard d'Estaing, moderne et Europe. L'Europe, la grande passion de VGE, c'est lui qui, dès son élection à l'Élysée, impulse l'idée des États-Unis d'Europe, une Europe politique, forte et sans entrave. Une idée chevillée au corps qu'il a menée main dans la main avec le chancelier allemand Helmut Schmidt. La France perd un homme d'État, l'Allemagne un ami, et nous tous, un grand Européen, a dit aujourd'hui Angela Merkel. L'Allemagne avec qui l'ancien président a toujours eu une relation très forte, lui qui est né outre-Rhin et qui a contribué à relancer les relations franco-allemandes. Hélène Kohl est la correspondante d'Europe 1 à Berlin.
À Koblenz, sur les bords du Rhin, il y a une plaque à l'endroit où se tenait la maison de naissance de Giscard d'Estaing. Son père était militaire et faisait partie des troupes françaises qui occupaient la région après la Première Guerre mondiale. VGE n'oubliera jamais ses années rhénanes, allant jusqu'à inviter à l'Élysée sa nourrice de l'époque, une certaine Mathilde. Quand il était à Paris, il fréquentait la mission catholique allemande pour suivre des offices dans la langue de sa prime jeunesse. En 1980, il se rend en Allemagne pour un voyage officiel. On a du mal à le croire aujourd'hui, mais après le général de Gaulle en 1962, ce n'est alors que la deuxième fois qu'un président français se rend en RFA.
Ici, à Bonn, je vous rends visite en voisin, avec le souhait de voir nos deux peuples apprendre à mieux se connaître.
Il montre l'exemple avec sa relation étroite avec le chancelier Helmut Schmidt d'un autre bord politique, mais un véritable ami, un ami fidèle, dira Giscard d'Estaing à la mort de Schmidt il y a 5 ans. Sur la scène européenne, les deux hommes vont agir de concert et changer la donne, notamment en créant le système monétaire européen qui a ouvert la voie à l'euro. Berlin, Hélène Kohl, Europe 1.
Et notez qu'en raison de la mort de Valéry Giscard d'Estaing, Emmanuel Macron a reporté à demain l'interview qu'il devait donner aujourd'hui aux médias en ligne brut. Interview à destination de la jeunesse.
Europe Soir, le 22-22-30, Julien Pierce.
L'autre actualité majeure ce soir, c'est la stratégie vaccinale française contre le Covid. Qui sera vacciné en priorité? Comment et par qui? Combien de doses? Le Premier ministre a détaillé ce soir la politique du gouvernement.
Le début de la vaccination est désormais une question de semaines. Notre premier objectif a été de garantir que la France disposera de suffisamment de vaccins le moment venu. La France disposera ainsi d'un potentiel de 200 millions de doses. La vaccination sera gratuite pour tous. Notre deuxième objectif est de vacciner en priorité les personnes âgées en établissement, notamment les EHPAD, à la fois les résidents et les personnels y travaillant lorsque ces derniers sont à risque de développer une forme grave de la maladie. Cela représente environ 1 million de personnes, ce qui correspond aux quantités de vaccins qui nous seront livrés au cours du premier mois.
Anne Le Gall, vous avez suivi cette conférence de presse de Jean Castex et à l'écoute du Premier ministre, on se dit que finalement ça va aller assez vite.
Exactement, l'autorisation européenne de mise sur le marché des vaccins BioNTech et Moderna pourrait intervenir fin décembre. La Haute Autorité de Santé, qui est une autorité indépendante, se prononcera ensuite sur cette validation. Ce qui fait que les personnes les plus fragiles, les personnes âgées vivant en EHPAD et le personnel à risque y travaillant pourront commencer à être vaccinées dès le mois de janvier. Cela correspond à environ 1 million de personnes. Puis en phase 2, cette vaccination sera élargie à 14 millions de personnes à risque supplémentaires. Et enfin, à partir du printemps, la phase 3, cette vaccination sera élargie progressivement à l'ensemble de la population, en commençant par les plus de 50 ans. 10 vaccins sont attendus d'ici l'été. 6 contrats ont déjà été signés par l'Union européenne pour sécuriser les approvisionnements. 2 vaccins seulement seront disponibles a priori chez nous en janvier. Ceux qui utilisent la technique de l'ARN messager et qui doivent donc être conservés dans des supercongélateurs. Il va falloir construire une logistique adaptée, a dit le Premier ministre. Mais nous avons acheté le matériel, nous serons prêts. La stratégie vaccinale sera présentée au Parlement. Et le médecin généraliste sera au cœur du dispositif, ainsi que le personnel de santé de terrain dans les territoires. Enfin, Jean Castex a insisté, cette vaccination se fera dans une totale transparence. Rien ne se fera au détriment de la sécurité sanitaire.
Merci Anne Le Gall du service Société d'Europe 1. Jean Castex qui a appelé les Français à se faire vacciner massivement. C'est un acte altruiste, a dit le Premier ministre qui a nommé un monsieur vaccin. Il s'agit du professeur d'immunologie Alain Fischer, chargé d'incarner auprès du grand public cette campagne de vaccination. Stratégie vaccinale qui sera présentée au Parlement au cours du mois de décembre, par souci, encore une fois, de transparence, a indiqué Jean Castex. Et puis concernant les fêtes de fin d'année, le gouvernement recommande 6 adultes maximum à table, sans compter les enfants. Par ailleurs, le Premier ministre a confirmé qu'une nouvelle jauge sera appliquée dès demain dans les lieux de culte. 2 sièges entre chaque personne ou entité familiale et une rangée sur 2 occupée. Claude Guéant, mis en examen pour association de malfaiteurs dans l'enquête sur les soupçons de financement libyen de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007. Mise en examen qui intervient alors que se tient en ce moment même le procès de l'affaire dite des écoutes dans lequel comparaît l'ancien président. Après une suspension brutale hier soir, les avocats ayant failli en venir aux mains, l'audience a repris avec la fin de l'interrogatoire de Gilbert Azibert. Mais la tension n'est pas redescendue pour autant, Gladys Laffitte.
Non, au contraire, Gilbert Azibert était remonté contre les procureurs financiers, très excédé. Il a d'emblée expliqué à la vice-procureure qu'il ne répondrait pas à ses questions sur ses agendas. Si ça continue, je vais demander une suspension d'audience. Je commence à fatiguer. Voilà pour l'ambiance qui ne s'est pas vraiment améliorée. On a assisté à une joute entre magistrats, entre juristes même. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Gilbert Azibert n'a pas mâché ses mots. Lorsqu'on a la prétention de poursuivre un ancien président, l'un des meilleurs pénalistes et modestement un magistrat, on a au moins la curiosité d'ouvrir le code pénal. Je ne relève pas du trafic d'influence. Je suis scandalisée par la légèreté du parquet et son incompétence. Alors rire dans la salle remplie d'avocats venus soutenir leur confrère Thierry Herzog. Rire aussi sur le banc des prévenus, y compris derrière le masque de Nicolas Sarkozy. Mais aucun rire côté parquet qui répondra lors des réquisitions. Vous vous rendrez compte que vous n'êtes pas si bon juriste que vous le prétendez, a asséné le procureur. Sans vraiment avoir ébranlé Gilbert Azibert, je vous retourne le compliment, a-t-il rétorqué.
Gladys Laffitte qui suit ce procès pour Europe 1. 15 ans de réclusion criminelle ont été requis au procès de Joël Le Skouarnec. L'ancien chirurgien est jugé depuis lundi aux assises de Sainte pour des viols et des agressions sexuelles sur 4 mineurs. Le verdict devrait être prononcé dans la soirée. Premier volet d'une affaire de pédocriminalité sans précédent en France. Plus de 300 victimes ont été recensées. L214 annonce qu'elle va porter plainte contre un élevage de cochons qui fournit la marque de charcuterie Herta dans l'Allier. L'association de défense des animaux dénonce vidéo à l'appui des conditions déplorables non conformes aux exigences réglementaires. Et les autorités sanitaires ont déclenché un contrôle de l'exploitation. Les routiers du nord de la France n'en peuvent plus. Des files d'attente interminables pour se rendre au Royaume-Uni en prévision d'un échec des négociations sur l'accord commercial post-Brexit. Les Britanniques remplissent leur stock comme jamais. Et bien, depuis 2 semaines, le nombre de camions franchissant la Manche chaque jour a augmenté de 50%, ce qui provoque d'importants embouteillages. Un mot de football, la Ligue Europa. L'OGC Nice affronte en ce moment le Bayer Leverkusen. Le score est pour l'heure de 3-2 en faveur des Allemands. 56e minute de jeu. C'est donc mal embarqué pour les Aiglons qui, même en cas de victoire, il faudrait un miracle pour qu'ils se qualifient pour le tour suivant. Ce qu'ont réussi, en revanche, les Lillois, le LOSC, c'est un posé tout à l'heure face au Sparta Prague, score final 2-1. Les Dogs disputeront donc les 16e de finale. On passe à la météo. Prudence dans les Hautes-Alpes. Une vigilance orange neige-verglas est en cours et ce jusqu'à demain. Anissa Haddadi, le temps de demain sera donc toujours très agité.
Oui, c'est même hivernal. Hein. Demain, Julien, avec sur les Alpes des pluies qui se renforcent dans l'après-midi. Sur toutes les côtes des Hauts-de-France jusqu'aux Landes, il va pleuvoir aussi demain. C'est sur la région parisienne finalement, sur le centre-Val de Loire et sur les Pays de la Loire, même jusque sur le Limousin, que le temps restera sec et ensoleillé demain matin, puisque dans l'après-midi, les averses arrivent quasiment sur toute la France. Il n'y a que sur l'Île-de-France et le pourtour méditerranéen, allez, même sur la Bourgogne aussi, que là vous aurez la chance d'avoir un temps sec demain après-midi. Attention en Corse et sur la Côte d'Azur, les orages risquent de taper fort demain après-midi et puis les averses deviendront aussi orageuses sur le Pays Basque. Alors demain matin, nous aurons un léger redout côté température, puisque la température la plus fraîche sera à Vannes, avec moins 1 degré, 0 à Manosque, 5 à Paris et 7 à Nice. Et puis au meilleur de la journée, c'est quasiment comme aujourd'hui, 5 à 9 degrés sur l'ensemble de la France, 8 à 11 au bord de l'Atlantique et jusqu'à 15 degrés dans le sud-est.
Merci beaucoup Anissa Haddadi.
Europe Soir, le 22-22-30, Julien Pierce.
22h17 sur Europe 1, c'est l'heure de Top à Wall Street. Toutes les infos de la bourse avec Claire Lemaître de Boursier.com. Bonsoir Claire.
Bonsoir Julien.
Wall Street flirte à nouveau avec ses plus hauts niveaux historiques ce soir.
Oui, alors pas de record hein, pour le Dow Jones qui gagne 0,3%, 29 969 points. C'est mieux pour le Nasdaq, c'est un record, plus 0,23%, 12 377 points. Le marché a tout de même été freiné en toute fin de séance, notamment par Pfizer. Le laboratoire révise le programme de distribution de son vaccin très attendu contre le Covid, selon le Wall Street Journal, le journal qui évoque des soucis dans la chaîne d'approvisionnement. Le titre Pfizer perd 1,7%. Le pétrole, lui, progresse après un accord timide du côté de l'OPEP+. L'Alliance a décidé de relever sa production de 500 000 barils par jour à partir de janvier. C'est moins que ce qui était prévu. Le baril gagne 1%, $45.76 à New York. Tesla bondit de 4,3% avec le coup de pouce de la banque d'affaires Goldman Sachs qui conseille d'acheter les actions du fabricant de voitures électriques. Et puis le dollar reste faible et l'euro en profite, il gagne 0,2% à $1.2140.
Même scénario qu'hier, cette fois à la Bourse de Paris avec un CAC 40 qui a beaucoup, beaucoup hésité.
Oui, la Bourse de Paris manque de catalyseurs pour aller plus haut et ça donne un léger repli de 0,15%, 5 574 points. La remontée de l'euro face au dollar n'aide pas non plus les actions. Du côté des valeurs d'ailleurs, Orange perd 2,5%. L'opérateur prévoit entre autres d'utiliser une partie des 2 milliards d'euros perçus après un litige fiscal pour prendre le contrôle à 100% de sa filiale belge, opération qui ne semble pas séduire le marché.
C'est mieux en revanche pour le secteur aéronautique avec Thales et Safran.
Oui, le bureau d'analyse Bernstein est plus optimiste concernant la reprise des équipementiers du secteur aéronautique commercial. C'est grâce aux bonnes nouvelles sur le vaccin contre le coronavirus. Thales gagne 2,5%, Safran plus 0,2%. Et dans le même secteur, le géant Airbus bondit de 4% en tête du CAC 40 ce soir. La séance a été prudente en Europe. Londres gagne 0,4%, mais Francfort perd 0,4%. Madrid et Milan moins 0,2%. Amsterdam moins 0,1%. Bruxelles gagne 0,1% et à Paris, le CAC 40 cède 0,15%, 5 574 points.
Merci beaucoup Claire Lemaître de Boursier.com, c'était Top à Wall Street. À demain Claire. 22h20 sur Europe 1, on passe à l'interview éco. Emmanuel Duteil, c'est à vous.
Bonsoir Charles-Édouard Bouet.
Bonsoir Emmanuel.
Vous êtes le cofondateur et co-gérant d'Alpha Intelligence Capital. Vous êtes également l'ancien PDG de Roland Berger, l'un des plus importants cabinets de conseil au monde. Si on a voulu être en ligne avec vous ce soir, c'est pas pour tout ça. C'est pour un livre que vous avez fait paraître il y a de cela quelques semaines qui s'appelle L'ère des nouveaux titans, un livre que vous avez écrit en collaboration avec François Roche. Et ce livre est publié chez Grasset. Alors de quoi parle ce livre? Eh bien, il parle de ces titans technologiques et de ces titans politiques que d'une certaine manière, on ne saurait plus trop contrôler. Alors on va commencer avec les titans technologiques, Facebook, Microsoft et autres. C'est marrant pour quelqu'un qui a travaillé dans le conseil, qui est un capitaliste, si on peut dire, de tant les détester.
Ah, je ne déteste pas. Les titans technologiques sont nés de la crise financière de 2008-2009, d'une abondance de liquidités qui a permis l'émergence de ce que j'appelle les titans, mais qui sont souvent des licornes et qui sont ces GAFAM américains ou ces BAT chinois.
Ils vous font peut-être pas peur, mais d'une certaine manière, on a l'impression que vous nous dites aujourd'hui qu'on les a laissés se développer trop vite, tout seuls, et qu'ils sont trop forts et qu'on ne peut plus les rattraper.
Alors en fait, ce qui s'est passé, ce que j'écris dans le livre, c'est que cette abondance de liquidités, ces taux quasiment nuls, ont permis à ces géants technologiques, ces titans, de se développer, de devenir aussi puissants que les États, aussi riches, mais avec leur propre autorégulation. Et surtout, j'insiste sur le fait que, en particulier pendant le Covid, ils ont été absents sur la dimension sociale.
Qu'est-ce que vous leur demandez du coup aujourd'hui ?
Alors moi, je ne demande rien aux titans. Je pense qu'ils ont été construits sur des algorithmes, sur des modèles digitaux, et qu'on aurait pu s'attendre qu'en période de Covid, en période de difficultés, au-delà du fait qu'ils nous ont apporté beaucoup de choses, hein, on n'aurait pas pu commander, on n'aurait pas pu vivre, on n'aurait pas pu travailler, on n'aurait pas pu se divertir sans eux. Mmh. On aurait pu s'attendre que, étant ces titans, ils nous apportent une vision sociale et une dimension humaniste de ce qu'on pouvait faire en période de Covid.
Mais ce qui est intéressant, c'est que vous dites à un moment, le capitalisme a été poussé à vitesse maximale et il ne sera pas réformé, en prenant d'une certaine manière l'exemple des titans qui se sont développés à vitesse aussi grand V.
Oui, tout à fait. Hein. En fait, on a baissé les taux d'intérêt, on a mis une abondance de cash et de liquidités. Et là, on voit qu'avec le Covid, on a accentué, amplifié, accéléré. Donc, nous allons voir de plus en plus de titans grandir et prospérer.
Oui, parce que vous dites quand même quelque chose de très fort, hein, au début du livre, qu'ils ont, je ne sais plus quelle est la phrase exacte, mais vous dites que grosso modo, ils ont cassé nos modèles économiques et sociaux.
Alors en fait, j'ai repris l'analogie avec l'histoire, avec la titanomachie, parce qu'en fait, dans la titanomachie, on a l'apparition des titans et ça s'appelait, où les humains ont cru que c'était l'âge d'or. Et en fait, ça n'a pas été l'âge d'or. Nous avons tous cru que ces technologies allaient nous aider à vivre, ce qu'elles ont fait, mais en même temps, au fur et à mesure, elles ont attaqué les modèles économiques classiques et créé la peur parmi nos concitoyens. Et c'est aussi ce que je raconte dans la première partie du livre.
Alors, il y a donc ces titans technologiques, on voit quelle force ils peuvent avoir aujourd'hui, mais ce ne sont pas les seuls. Les titans, ce sont les nouveaux populistes, c'est-à-dire que c'est par exemple Poutine, c'est le président chinois, c'est Donald Trump qui est maintenant sur le départ du côté des États-Unis. Et c'est parce que, là aussi, vous dites d'une certaine manière, on a un peu laissé trop faire et on a fait le lit du populisme.
On a ces titans technologiques qui, comme vous le disiez, comme je le disais, ont attaqué les modèles économiques, ont fait peur. Nos concitoyens, vous, moi, les auditeurs d'Europe 1, prennent peur. On voit l'abondance de la technologie, on se demande où investir, est-ce que j'aurai encore un métier demain, que dois-je faire pour mes enfants, etc., etc. Et cette peur fait le lit du populisme et des titans géopolitiques qui, comme un titan, vous expliquent, nous expliquent qu'ils vont venir nous sauver, ce qu'a fait Donald Trump pour être élu il y a maintenant 4 ans.
À lire votre livre, alors je me suis peut-être trompé, mais j'ai eu l'impression que la mondialisation heureuse n'existait pas finalement, que c'était une mondialisation dangereuse si elle n'était pas contrôlée.
Alors, la mondialisation a apporté beaucoup de choses. Elle a apporté, comme la technologie, elle a apporté une déflation qui a permis à nous tous et à vos auditeurs de vivre mieux, de vivre avec des biens moins chers. Ce que je raconte dans le livre, ce n'est pas la mondialisation, c'est...
C'est une des conséquences, malgré tout.
L'abondance de liquidités qui a créé ces titans technologiques, on l'a bien vu, vous avez parlé des GAFAM, donc c'est les Américains, on a les BAT, les Baidu, Alibaba et Tencent chinois. Donc on a cette polarisation. Comme dans la titanomachie, il y avait des territoires et le monde s'était polarisé. On a une mondialisation avec une polarisation.
Alors, c'est un livre dans lequel vous proposez des solutions sans dire que c'est la solution miracle, mais la conclusion est quand même un petit peu difficile à entendre. Grosso modo, je me permets de résumer, mais vous dites, à cause de tout cela, demain, il n'y aura plus de travail pour tout le monde. Il faut donc en venir au revenu minimum universel.
Alors, dans un livre précédent, mon premier livre chez Grasset, j'avais parlé du monde du quaternaire, d'un monde plus difficile, où les nouveaux services allaient émerger. On voit bien aujourd'hui que ces titans technologiques ont créé ces titans géopolitiques, ont créé la peur, et la transformation qui va devoir être faite va avoir un impact sur le travail. Et donc, il faut trouver un moyen économique et social de financer et gérer cette transition. Le revenu universel, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Milton Friedman qui en a parlé en 1970. On en a parlé récemment. C'est une des pistes. C'est la moins pire à laquelle on puisse penser.
Et tout cela est accéléré par la crise actuelle.
Tout à fait, puisqu'en fait, nous avons fait exactement ce que nous n'aurions pas dû faire, mais nous n'avions pas le choix, c'est-à-dire injecter plus de liquidités, baisser encore les taux et donc faire le lit des titans technologiques. On va les voir prospérer, on l'a vu dans les marchés financiers, on va en voir de nouveaux apparaître et la peur de nos concitoyens, de vos visiteurs, ne va pas s'arrêter et donc on va avoir plus de titans géopolitiques. Et donc, nous sommes vraiment dans l'ère des nouveaux titans.
Et bien merci pour cette conclusion qui ne va pas tous nous donner le moral, mais qui est en tout cas au centre de ce livre passionnant, l'ère des nouveaux titans, donc écrit par vous, cher Édouard Boué, en collaboration avec le journaliste François Roche, aux éditions Grasset. Un grand merci à vous. On se retrouve, nous, demain, 22h20 sur Europe 1.
Merci beaucoup, Emmanuel Duteil. Emmanuel que l'on retrouvera demain à partir de 13h dans La France Bouge avec Elisabeth Assayag. Chaque jour, un grand patron qui nous explique comment il se réinvente pour faire face aux défis actuels. Demain, ce sera le patron des piscines des Joyaux, secteur qui, paraît-il, ne connaît pas la crise. Restez avec nous dans un instant, on va découvrir ensemble les unes de la presse de demain. A tout de suite. 22h28 sur Europe 1 et voici donc ce que vous pourrez lire demain à la une de vos journaux. Au revoir, c'est le titre à la une de La Croix qui accompagne ces deux mots d'une jolie photo en noir et blanc de Valéry Giscard d'Estaing, l'un des présidents les plus réformateurs des dernières décennies, rare exemple dans notre pays de libéralisme intégral, écrit Jérôme Chapuis. L'éditorialiste revient sur les mesures prises par VGE pendant son septennat, décisions qui ont modifié en profondeur la vie quotidienne des Français et plus encore des Françaises, le divorce par consentement mutuel, l'interruption volontaire de grossesse, le remboursement de la contraception. Mais Jérôme Chapuis dresse aussi l'héritage politique de Giscard. Notamment, et c'est moins connu, le quinquennat. C'est lui qui, en 2000, en imposa l'idée à son éternel rival Jacques Chirac, avec la complicité de Lionel Jospin, écrit l'éditorialiste de La Croix. Cet au revoir lancé par Giscard, deux jours avant qu'il quitte l'Élysée, fut lourd d'amertume et de malentendus, écrit Denis Domain dans La Nouvelle République. À l'image de cette chaise vide, en plan fixe depuis un demi-siècle, Valéry Giscard d'Estaing a cru que son destin avec cette France imprévisible se renouerait. Il a espéré avant de se résigner, avant de comprendre qu'une page s'était tournée, écrit l'éditorialiste qui conclut. En ce sens, le surdoué, celui auquel rien n'avait été refusé, est mort une première fois à ce moment-là. Surdoué, le mot revient également dans le Figaro qui consacre une très jolie une à Giscard. Le pouvoir et la vie, c'est le titre qui orne une photo en noir et blanc, très jolie là aussi, d'un jeune président pressé dans la cour de l'Élysée. À ce surdoué de la politique, écrit Alexis Brézé, les dieux qui commandent au hasard de la naissance avaient tout donné, une intelligence hors du commun, une élégance altière, le goût de comprendre et le talent d'expliquer, le don de séduire et l'autorité pour commander, mais aussi le sentiment aigu de son évidente supériorité. Trop aigu peut-être. 7 ans plus tard, le même homme, victime de ses foucades, de la crise économique et de la trahison de son camp, passait toujours à pied le même Porsche, mais cette fois sous les sifflets, conclut Alexis Brézé. Bonsoir Olivier Delacroix.
Bonsoir Julien.
Comment allez-vous ?
Écoutez, ma foi, tout va bien. Le lendemain d'une victoire éclatante du Paris Saint-Germain, vous le savez, chez moi, ça dure bien 48 heures.
Mais bien, c'est l'essentiel. 39...
C'est si rare ces derniers temps.
39-21 pour vous appeler et témoigner dans la libre antenne qui débute donc dès maintenant et ce jusqu'à 1h du matin. Moi, je vous dis à tout de suite dans 29 minutes précisément.
À tout à l'heure, Julien.